Vous recevez Farida Mekdoud qui conduit la liste de lutte ouvrière.
Et ce, pour la deuxième fois.
Exactement.
Pourquoi vous repartez pour une deuxième aventure?
Je suis une militante. Vous savez, entre deux élections, je suis sur le terrain, je milite. Et là, il y avait la possibilité de faire entendre le camp des travailleurs. On n'allait pas s'en priver.
Bon, puis finalement, sur Orléans, à chaque fois, vous partez, que ce soit pour les élections municipales, ces élections régionales. Voilà, vous allez au combat.
Il faut absolument que le camp des travailleurs se fasse exprimer. Aujourd'hui, vous savez, la vie politique, elle est monopolisée par les porte-paroles de la grande bourgeoisie, des industriels, des banquiers, qui savent défendre leurs intérêts, qui savent, qui monopolisent d'ailleurs pas simplement la vie politique, mais la parole dans les médias. Et donc, quand l'opportunité se présente pour les travailleurs de se faire entendre, de dire qu'il n'y a aucune raison d'accepter les sacrifices qu'on leur demande, que l'argent, il y en a suffisamment dans la société, eh bien nous, on est toujours là pour le dire.
Cet esprit militant, quand est-ce qu'il est né chez vous?
Bien, je suis devenue militante, je suis pas née militante, mais c'est vrai que avant même de m'engager en politique, j'étais sensible aux inégalités sociales. Je voyais bien qu'il y a des choses qui tournaient pas rond. Je voyais bien qu'on était dans une société qui regorgeait de richesses, une société qui regorgeait de possibilités, de savoir-faire, et que techniquement, c'était pas un problème en réalité de répondre. Une des choses qui me touchait particulièrement, c'était la famine que je voyais sévir en Afrique. C'est pas acceptable quand on est jeune, qu'on voit ça. J'ai cherché des réponses. Au début, c'est vrai que je me suis plus tournée vers l'humanitaire, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même un problème politique d'organisation de la société. Et quand j'ai rencontré les idées communistes, ça a été tout naturel de m'engager dans ce sens, parce que elle m'apportait des réponses au fait qu'aujourd'hui, bien qu'on ait les moyens techniques, si on fait un bilan des ressources aujourd'hui sur la planète, c'est pas un signe égal qu'on a par rapport aux besoins. C'est 7 fois, 8 fois, et encore en limitant les possibilités, et encore en laissant des centaines de millions de personnes sur le carreau au chômage, en n'exploitant pas tout ce qu'ils pourraient apporter. Donc c'est vraiment ça qu'il faut remettre en cause, l'organisation économique, le capitalisme.
Et c'est à quel moment que l'on bascule, à quel âge, voilà, on a ses idées, et puis ensuite on devient militant, et ensuite on s'engage politiquement, et on se présente à des élections.
Je me suis sentie engagée à partir du moment où j'ai décidé de le faire. C'est vrai qu'après, cet engagement peut prendre des formes différentes. Ouais. Être porte-parole, se présenter aux élections. C'est une responsabilité supplémentaire vis-à-vis de son organisation, vis-à-vis des militants qui vous choisissent. Mais ça s'est fait naturellement.
Un exemple, peut-être, Arlette Laguiller.
Ah, c'est évident qu'Arlette, c'est une personnalité qui a compté, puisque déjà, c'est une femme, ça compte, une travailleuse de surcroît. Et sa sincérité, sa fidélité à ses idées, et puis ses discours, surtout, ça a contribué à mes choix.
Alors, on l'a dit, vous êtes professeur de français, vous allez d'ailleurs retourner au travail tout à l'heure.
Et histoire-géographie aussi.
Et histoire-géographie. Juste, il y a beaucoup de questions aussi, des gens qui se posent cette question. Voilà, on est militant, communiste, lutte ouvrière, et comment on fait pour ne pas laisser apercevoir ses idées quand on enseigne?
Bon, déjà, je fais mon travail. Vous savez, évidemment, on est une personne entière. Il n'y a pas un côté un professeur, un côté un militant. Mais quand je fais mon travail, j'applique les programmes qui sont présentés. C'est pas moi qui les sélectionne, donc c'est pas un problème en réalité. Et je cache pas mon engagement auprès des élèves. Ils savent que je vais me présenter aux élections régionales. Ceci dit, je profite pas de la tribune que m'offre un cours pour défendre ma. C'est pas là où je fais campagne. Maintenant, quand des élèves me posent des questions, je suis prête à y répondre, évidemment.
Farida Mekdoud, voilà. Ça y est, on vous connaît mieux, et dans quelques minutes, on va pouvoir parler du programme et de vos idées pour ces élections régionales.
Très bien.
La COP21 débute aujourd'hui à Paris, ce grand raout avec plus de 150 chefs d'État qui vont tenter de trouver un accord. Quel regard portez-vous sur ce grand rassemblement?
Écoutez, vous venez d'utiliser le mot « ils vont tenter ». Justement, la COP21, elle intervient après une COP20, une COP19. Et en réalité, on voit que ils arrivent pas à endiguer la pollution. Ils arrivent pas à régler le problème de la planète, de la manière dont, justement, la pollution s'étend. Parce qu'en réalité, ils ne prennent jamais de mesures contraignantes vis-à-vis de leur propre pays. Et puis surtout vis-à-vis des grands groupes industriels qui polluent. Parce qu'on constate quoi? Que les grands groupes industriels, comme automobiles, ils parlent d'écologie, Hein. Ils en font de la publicité, c'est devenu même une manière de vendre. Et puis en réalité, ils s'assoient dessus. La fraude à grande échelle récente de Volkswagen est là pour en témoigner.
Alors, ils répondent qu'il y a aussi des emplois derrière et que parfois cela pourrait coûter des emplois que d'avoir des normes plus drastiques et voilà que les coûts de production seraient supérieurs.
En réalité, c'est pas le coût de production. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir leur profit. Hein, au nom de quoi, aujourd'hui, on va justement détruire la planète, hein, autoriser les grands groupes industriels à polluer comme ils le font, parce que c'est eux qui ont la maîtrise, hein, c'est eux qui décident de produire des véhicules diesel, c'est eux qui décident de la manière de fabriquer, c'est pas les travailleurs sur les chaînes qui décident de ça. Au nom de quoi ils décident? Au nom de quoi ils décident? Ils décident parce qu'ils exercent une dictature sur la société, ils exercent leur bon vouloir. Eh ben, il faudrait les contraindre, justement. Et pas simplement dans le domaine de la pollution, mais dans tous les domaines de la vie économique. Il faut pas les laisser faire, ils sont en train de détruire la planète. On peut pas avoir une planète en bon état si on n'a pas une société en bon état. Et on pourra pas avoir une société en bon état tant que ça sera pas les citoyens, hein, les travailleurs, la population et classe populaire qui décident de leur sort.
Alors, en marge de cette COP21, hier soir, place de la République, à Paris, il y a eu des affrontements avec 150 interpellations environ de militants d'extrême gauche, d'activistes qui ont saccagé le mémorial pour les victimes des attentats de Paris. Qu'en avez-vous pensé? Qui sont ces gens?
Ben, je ne sais pas, j'étais pas à place de la République, en tout cas ce que je sais, n'y étions pas présents, en tout cas ce que je sais, c'est que cette manifestation, elle a été interdite. Il est là, en réalité, le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il faudrait laisser aux grands dirigeants de la planète le soin de s'exprimer sur ce sujet, et quand des associations, des partis qui militent sur ce terrain ont envie de le faire, on les empêche de s'exprimer, donc j'en profite.
S'exprimer en balançant les bougies sur le monument?
Ben oui, mais là, en l'occurrence...
Et sur les forces de l'ordre?
Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais moi, le fait que je vois, c'est l'interdiction de la manifestation.
C'est donc plus important que de souiller la mémoire des victimes? De pouvoir refaire une manifestation?
Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre manifester contre justement les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises par les grands États en réalité. Hein. Moi, ce qui s'est passé, ces incidents, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que l'état d'urgence, c'est une manière pour le gouvernement, hein, de faire taire toute opposition à sa politique. C'est pas la première manifestation qui a été interdite. Il y en a une il y a 8 jours contre les migrants. Et ça, je le déplore, parce qu'au nom justement de la lutte contre le terrorisme, on empêche de soutenir ceux qui sont les premières victimes des terroristes, justement, hein, qui fuient leur dictature en Syrie ou au Moyen-Orient, et on leur ferme la porte. Et ça, je le condamne.
Farid Amekdoud, sur ces attentats, vous le savez, certains estiment que les terroristes épousent aujourd'hui les thèses djihadistes, comme ils auraient pu épouser les combats de l'extrême gauche dans les années 70, les années 80. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Non, c'est un peu... C'est un peu une ânerie. Hein. En réalité, ces terroristes sont les ennemis de l'humanité, sont les ennemis des travailleurs. Ils veulent imposer justement une dictature à toute la société. Donc, ils luttent pas contre l'oppression. Ils sont les agents d'une oppression. Donc, ça n'a rien à voir avec des militants qui œuvrent à l'éveil de la conscience. Parce que nous, on pense que il y aura aucun changement possible sans une action collective et consciente de la population. C'est loin. Ça n'a rien à voir avec l'action des terroristes.
Alors, pour ces élections régionales, une des compétences, c'est l'économie. Mmh. Vous, à votre échelle, à Lutte Ouvrière, qu'est-ce que vous proposez sur ce point, si vous êtes élu?
Bien, écoutez, nous n'avons pas un programme pour l'économie, nous avons un programme pour les travailleurs. Et qui sont confrontés à une économie qui les laisse sur le carreau, une économie où leur pouvoir d'achat est en train de s'effondrer, une économie où les licenciements, ben chaque jour vous avez vu les chiffres du chômage, hein, et le chômage a encore augmenté. Vous avez commencé votre journal ce matin avec les Restos du Cœur qui une nouvelle fois font une campagne. Donc la situation ne fait que se dégrader. Il y a de plus en plus de travailleurs qui tombent dans la pauvreté et de la pauvreté qui se retrouvent à la rue. Ben, c'est ça qu'il faut condamner. J'ai commencé en disant que les richesses existent dans la société. Elles existent. Les grands groupes capitalistes ont fait des bénéfices. Les dividendes versés aux actionnaires, ils augmentent en permanence. Donc, il y aurait largement aujourd'hui les moyens de maintenir l'emploi, Et pour ça, il faudrait interdire les licenciements. Ça, c'est une mesure économique d'urgence. Interdire les licenciements.
Mais est-ce que c'est au niveau de la région ou c'est l'État et vous êtes finalement les relais de l'État au niveau des régions?
Au niveau de la région, on pourra peut-être pas interdire les licenciements. Hein. Donc, par contre, au niveau de la région, hein, ce qui pourrait être fait justement, c'est d'arrêter d'arroser les grands groupes, d'arroser les entreprises au nom de la création d'emplois. Elles ne créent pas un seul emploi. Par contre, hein, les entreprises touchent l'argent. C'est pas les élections qui vont permettre aujourd'hui aux travailleurs de changer la société. Ils pourront que s'exprimer sur un programme de lutte. Si on veut absolument en finir avec le fléau du chômage, interdire les licenciements, répartir le travail entre tous et sans perte de salaire, parce qu'aujourd'hui, quand on perd son travail, on perd tout, eh bien, il faudra des mobilisations amples et puissantes. Se rappeler que les travailleurs, ils ont obtenu des droits. Les congés payés, ils ont obtenu la journée de 8 heures, ils ont obtenu le respect, le droit de s'organiser, le droit d'avoir des syndicats, de construire des organisations quand ils ont lutté. C'est les grandes luttes de 1936, bien sûr, mais aussi celles de 68, et j'en oublie un certain nombre. Eh bien, c'est avec ça qu'il faut renouer. Renouer avec le chemin de la lutte de classe. Parce qu'aujourd'hui, il y a une lutte de classe féroce qui est menée par les grands groupes capitalistes qui imposent depuis ses sommets, depuis les sommets jusqu'en bas, une dictature. Voilà, c'est ça qu'on va dénoncer.
Farida Megdo, tête de liste pour Lutte ouvrière pour les élections régionales. Question de Daniel.
Daniela Olivet, bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Vous avez une question sur la constance du parti Lutte ouvrière.
Mais moi, ce que je reproche un peu quand je prends son programme, je me dis, il n'y a pas beaucoup de changements. Depuis 40 ans, depuis Arlette Laguillier, on revoit toujours la même chose, toujours bon, travailleurs, travailleuses. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous parle de ce que la région pourrait faire, hein, des projets de la région, et je le vois pas. C'est uniquement, disons, être contre tout ce qui existe. Bon, il y a de plus en plus de chômage, les gens, les chômeurs, les retraités, les petites retraites, tout ça. Mais il n'y a aucune question, aucune réponse sur les projets de la région. Et c'est ça que je reproche. Sinon, je trouve que Madame McDoud, mais je pense qu'elle est très très sympathique, elle est très bien. Mais enfin, par contre, je me dis, aux dernières élections, on n'a eu que 1%. Alors ça, c'est quand même pas beaucoup. Hein, parce que si on veut gratter des voix, il faut peut-être changer le programme, il faut peut-être l'étoffer un petit peu.
Merci Daniel pour votre question. Farida Megdoud vous répond. Alors, est-ce que votre programme est adapté à la société d'aujourd'hui?
Mais écoutez, en tout cas, on va pas changer de notre programme, ni changer de discours, comme le Parti Socialiste. On va pas aller dans le courant réactionnaire qu'il y a actuellement, où on nous explique que c'est normal aujourd'hui, au 21e siècle, que les entreprises, finalement, fassent du profit. On n'a pas changé de programme parce que c'est toujours les mêmes. Hein, là, est-ce que les restaurants du cœur s'arrêtent? Ça fait 30 ans qu'ils existent, plus de 30 ans. Eh bien oui, il y a toujours le problème aujourd'hui de gens qui n'arrivent pas à se nourrir, tout simplement, dans un pays riche comme la France. Donc, on revendique en tout cas cette fidélité à nos idées. On en est fiers. Et sur la région, vous savez, les autres partis vont faire des promesses. Et avec quoi ils vont les financer? Parce que la plupart, là, en ce moment, l'État, il est en train d'augmenter son budget pour aller faire la guerre. Il est en train d'annoncer qu'il va encore aider les entreprises. Donc tout ça, finalement, ça retombe sur qui? Sur les classes populaires. Il n'a pas hésité là à donner des aides de plusieurs dizaines de milliards. Je dénonce ça. Le crédit impôt compétitivité, le pacte de responsabilité, le crédit impôt recherche, la liste est tellement grande, c'est le pillage des caisses publiques nationalement. Et je signale quand même qu'au niveau de la région, tous les grands partis, ils s'apprêtent à faire la même chose. Dans leur programme, il y en a des pages et des pages pour aider les entreprises. On a soi-disant aidé les entreprises pour qu'elles créent des emplois. Il y a 1 million de chômeurs depuis que Hollande est arrivé au pouvoir. Le CICE devait permettre donc de créer 1 million d'emplois. Moi, j'ai les chiffres d'entreprises de la région qui ont touché le CICE. Hutchinson, c'est pas une petite entreprise, c'est une usine qui dépend du groupe Total. Hutchinson a touché 2,6 millions d'emplois. Est-ce qu'il a créé des emplois? Aucun. L'usine d'Amilly a licencié 90 travailleurs. L'usine, Hutchinson a versé 405 millions de bénéfices au groupe Total. Il est là le problème.
Justement.
Si on veut arrêter ce fléau qu'est le chômage, parce que oui, c'est le problème numéro un, n'en déplaise à cette dame, et c'est de ça dont on veut parler.
Merci à Daniel, en tous les cas, pour sa question. Justement, pour rebondir sur ces entreprises, une autre question.
C'est Corinne, à Saint-Jean-de-la-Ruelle avec nous, 02 38 53 25 25. Corinne, bonjour.
Oui, bonjour.
moi, justement, je voudrais savoir ce que Lutte ouvrière pourrait faire là, dans son programme là, pour contrôler les aides hein, publiques là, qui sont versées aux entreprises et qui promettent des embauches, et alors qu'il n'y a rien qui est fait.
Voilà une question pour rebondir sur votre propos là.
Vous avez raison, madame.
Tous les profits, je m'excuse, mais moi je ne comprends pas les entreprises qui puissent licencier alors qu'ils ont des profits ou alors que l'entreprise est viable.
Tout à fait. On a l'exemple dans la région, c'est pas ce qui manque. Hein. J'ai une pensée particulière pour les travailleurs de BCS à Pithiviers qui ont appris qu'ils avaient un mois pour faire leur bagage, en gros, puisque l'entreprise ferme. C'est pas qu'elle est en difficulté, l'entreprise. C'est que les choix de la direction d'entreprise, c'est de tout réorganiser. Et ils se lavent les mains du sort des travailleurs qui, pendant des années, ont fait des sacrifices, à qui on a promis, justement, des choses. Et cette entreprise a bénéficié de subventions. Donc, vous avez raison, il faudrait les contrôler. Alors au niveau de la région, déjà, il faudrait cesser de verser ces aides, puisqu'on constate que ça sert à rien, qu'ils empochent, mais qu'ils embauchent pas. Eh bien, moi, je suis pour l'arrêt de ces subventions, littéralement. Et puis, vous savez, on pourrait pas les contrôler tant qu'il y a une loi qui existe, qui s'appelle la loi sur le secret des affaires, le secret bancaire, le secret commercial.
Ça, vous voulez la lever, cette
fois ? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a plein de travailleurs qui sont au courant de ce qui se passe dans les entreprises, qui savent que l'entreprise fait du bénéfice, ou même, ne serait-ce que pour parler de la pollution, hein, des entreprises qui savent que, y a des choses qui sont... Vous croyez qu'à Volkswagen, par exemple, il y avait pas des milliers de travailleurs, d'ingénieurs, etc., qui étaient au courant de ce qui se passait ? Vous pensez qu'ils peuvent le dire ?
C'est peut-être la loyauté vis-à-vis de son patron, de sa boîte, de son groupe.
Une loyauté qui s'appelle si vous dénoncez ça, je vous licencie. Et c'est pas simplement le licenciement qu'on risque, hein, on risque tout simplement d'être condamné, y compris d'aller en prison. Alors ça, c'est un problème. Et s'il y avait cette loi sur le secret qui était, des affaires qui étaient levées, on verrait que d'argent il y en a. On verrait où va l'argent et à quoi il sert. Aujourd'hui, les bénéfices, finalement, on crève de ça. Les grands groupes exigent des bénéfices à deux chiffres. Du 9 ou du 8%, ça ne leur suffit pas. Ils veulent du 15 et du 20%. Ils convoquent, les actionnaires convoquent leur PDG et leur disent, vous vous débrouillez, on veut du 15%, on vous laisse 3 mois. On vous laisse 6 mois. Et qu'est-ce qu'il fait le PDG? Il convoque ses directeurs, ses collaborateurs, il ferme une usine par-ci, il réorganise la production par-là, il met du 5-8, il supprime les RTT. Et c'est les conditions de travail qui sont dégradées. Et tout ça pour répondre à ça, ça s'appelle la dictature. Regardez le groupe Air France qui a annoncé 2900 suppressions d'emplois, alors que l'entreprise fait des bénéfices, alors que ses vols sont pleins à 90%. Et il faudrait que ça soit encore les salariés qui en fassent les frais, qui fassent un énième plan, un énième sacrifice. Eh bien, franchement, ils ont bien eu raison de se mettre en colère, hein, parce que c'est sur les bénéfices qu'il faut prendre pour maintenir l'emploi. Nulle part ailleurs.
Farida Megdo, tête de liste Lutte ouvrière pour les élections régionales.
Et la suite de notre petit déjeuner avec vous, Éric Normand.
Et Farida Megdo, surtout tête de liste Lutte ouvrière pour les élections régionales. Le premier tour, c'est dimanche, le 6 décembre. Ce n'est pas la première fois que vous vous présentez pour ces élections régionales. LO, en 1998, était seul en lice pour les régionales en Centre-Val-de-Loire, à l'extrême-gauche. En 2010, il y avait le NPA et LO. En 2004, une liste d'union LO-LCR. Vous aviez totalisé 5%. Là, cette fois, vous êtes seul. Est-ce que c'est un handicap ?
Bien écoutez, non, c'est pas un handicap. Hein, c'est en tout cas c'est comme ça. Nous on a souhaité faire entendre le camp des travailleurs et j'affirme quand même que le NPA a appelé à voter pour les listes de lutte ouvrière et s'est rallié finalement à notre démarche et on s'en réjouit.
Alors justement, Jean-François de Saint-Jean-de-la-Ruelle est en direct avec nous. Vous pouvez poser vos questions sur France Bleu Orléans au 02 38 53 25 25.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Quelle est votre question ?
Eh bien, mes questions, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Je trouve que même un petit... je trouve normal qu'un petit parti ait le droit de s'exprimer. Ça permet, disons que ça oblige un peu les patrons à respecter un peu leurs engagements pour faire uniquement ce qu'ils veulent, par exemple toucher de l'argent public et puis Mais je crois que ça a été, tout ce qui a été dit.
C'est vrai que ça tourne beaucoup autour de cette question ce matin. Bah voilà. Les questions des auditeurs, mais c'est aussi le thème central de campagne de Farida Mekdoud et de Lutte Ouvrière.
C'est une chose qui est peut-être pas facile à contrôler, mais enfin, disons que c'est un peu scandaleux de voir ça.
Et votre question, donc, c'est qu'est-ce que Lutte Ouvrière pourrait changer si madame était élue?
Voilà, c'est ça.
Alors, quels sont vos leviers d'action? Voilà, concrètement. Parce que c'est vrai que parfois, les auditeurs ont peut-être l'impression qu'on est dans le discours, dans les grandes intentions. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Mais si on était élu, on serait les yeux et les oreilles des travailleurs et des classes populaires dans ces conseils régionaux. Et en tout cas, on ne fait pas le mensonge que les autres partis font en leur disant, votez pour nous, les choses vont changer. Ce qu'on dit aux travailleurs, ce que je vous dis, monsieur, c'est que si vous voulez que votre sort, si on veut que notre sort s'améliore, il faudra lutter, il faudra des mobilisations en puissante pour imposer justement l'interdiction des salaires, pour imposer l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite, l'augmentation des allocations. Je trouve particulièrement scandaleux justement qu'on pille les caisses publiques et qu'on demande aux adultes handicapés de faire des sacrifices ou aux retraités qui disposaient d'un demi-part de faire des sacrifices. Ils sont revenus là-dessus, le gouvernement, parce qu'il y a les élections, mais quand même, ils l'ont envisagé. Ça leur pose pas de problème. Alors, si j'étais élue, moi, je m'opposerais à toutes les mesures qui visent à vider les caisses publiques. L'argent public doit servir au service public. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans les services publics, que ça soit les hôpitaux, l'éducation, que ça soit dans n'importe quel secteur, ils vous disent que là où ils étaient 10, ils sont plus que 5. Hein, on a affaire à des personnels soignants qui sont épuisés. Vous avez fait suffisamment de chroniques sur votre radio à propos de l'hôpital. Vous avez relayé justement les difficultés des personnels hospitaliers. Il n'y a pas que les murs, il n'y a pas que les beaux bâtiments, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans la santé. Ce qu'il faut, c'est des moyens humains pour pouvoir accueillir dignement les malades, pour pouvoir éduquer les enfants correctement. Donc ça, on irait, si on était élu, ça serait notre cette parole-là qu'on porterait.
Oui, mais on se dit, Farida Mekdoud, oui, que c'est peut-être plus à l'Assemblée nationale que vous pourriez faire entendre cette voix si vous êtes élu au niveau régional. Bon, ben voilà, c'est juste finalement dans le discours. Après, c'est bien, il faut un porte-voix, il faut à tous les échelons, et ces élections sont l'occasion pour vous de faire entendre vos idées. Mais aux élections régionales, voilà, pas de levier d'action,
non,
finalement.
Vous savez, monsieur, ces élections régionales, elles sont politiques. Qu'est-ce que vous allez faire au lendemain du 6 décembre? Tous les partis, tous les journaux, les journalistes, tous les médias vont faire un bilan politique de ces élections. Et vous allez plus interroger personne sur les promesses de campagne qu'ils ont faites, sur ceci ou sur cela. Donc, l'occasion est donnée aux classes populaires qui sont mécontentes et écœurées et révoltées de la politique de ce gouvernement qui n'impose l'austérité pour les travailleurs et les classes populaires et qui fait des cadeaux aux plus riches. Des dizaines de milliards. Le premier poste budgétaire aujourd'hui de l'État, oui, c'est les remboursements des intérêts aux banques, c'est les subventions aux entreprises. Et au nom de ce pillage des caisses publiques, on demande des sacrifices. Les communes vont se retrouver avec des dotations en baisse. Les conseils régionaux, peut-être demain aussi. Et les conseils régionaux aujourd'hui, hein, à l'échelle de la France, c'est 28 milliards de subventions. C'est pas rien.
Farida Mekdoud, quel sera votre positionnement au deuxième tour? On risque de se retrouver avec une triangulaire, avec la droite, l'UDI, LR, et puis le Front National et le PS. Vous appellerez à voter pour qui?
Ben écoutez, vous savez, nous on fait campagne pour le premier tour parce que c'est là uniquement que les travailleurs pourront exprimer leurs intérêts.
Mais il n'y a pas un parti dans ce deuxième tour, là, dans les grands partis, comme on dit.
Écoutez, que ça soit le Front National, l'UMP ou le Parti Socialiste, qui aspirent à prendre la tête du pays, qui seront peut-être à la tête des exécutifs. On voit qu'ils sont tous d'accord, les uns et les autres, pour avoir cette politique d'aide aux entreprises. Vous lisez leur programme économique, ils se ressemblent. Ils parlent tous du point de vue des intérêts des patrons. Aider les entreprises.
Et d'un point de vue sociétal et d'un point de vue humaniste, est-ce qu'il y a des différences entre ces trois-là?
Écoutez, moi depuis 15 jours, avec cette Union nationale, quand je vois que la droite et le Front National se sont fait doubler sur leur droite par Hollande, qui puise dans l'arsenal politique de l'extrême droite des mesures sécuritaires, qui pointe du doigt les étrangers, hein, bouc émissaire facile pour des responsables politiques qui veulent pas s'en prendre justement aux vrais responsables du chômage, de la sécurité. Et ils sont tous d'accord pour aller faire accentuer la guerre en Syrie. Et je tiens d'ailleurs à dénoncer cette politique guerrière qui a un encrenage complètement fou, qui n'arrêtera pas le terrorisme, au contraire, qui l'alimentera.
Merci Farida Mekdoud d'avoir été l'invitée des petits déjeuners de campagne sur France Bleu Orléans. Vous êtes à la tête de liste pour Lutte Ouvrière.